Bienvenue dans l'émission Les Plantes Vagabondes, l'émission 100% nature de Radio G, qui vous invite à partir en nature à la découverte de l'histoire, des légendes, du mode de vie et des usages des plantes sauvages tous les vendredis pairs à 13h. Cette émission prend un format spécial aujourd'hui puisqu'elle se déroule dans les locaux du plantis à Écuyer pour une émission collégiale en présence de toutes les chroniqueuses de l'émission, celles qui vous accompagnent durant toutes ces saisons avec un format spécial d'une heure. Durant cette prochaine heure, donc, nous vous invitons à découvrir en vrai les coulisses de cette émission et le fonctionnement de tout cet écosystème radiophonique consacré aux plantes sauvages. Je suis Claudie, ingénieure paysagiste, conseil et paysagiste conceptrice. Et aujourd'hui, nous sommes partis pour cette nouvelle émission en direct au plantis. C'est parti! Alors aujourd'hui, je suis entourée par Arcandia dans sa chronique Jardiner avec les plantes sauvages, et qui anime les jardins d'Arcan. Bonjour Arcandia.
Bonjour Claudie.
Nous avons Karine qui anime Le Bonheur est dans les simples et qui produit des plantes aromatiques et médicinales chez Bonaflora. Bonjour Karine.
Bonjour Claudie.
Nous avons aussi Laura, animatrice des chroniques paysannes, paysanne distillatrice à HF.
Bonjour.
Nous avons aussi Marie, alors Marie Chevreul, parce que nous avons plusieurs Marie, dans sa chronique Enherbez-vous, la chronique culinaire des plantes vagabondes.
Bonjour Claudie.
Bonjour Marie. Donc nous avons aussi une autre Marie, Marie Fortin, qui anime l'aquabulaire Les Mots de la Rivière, qui est hydrobiologiste et spécialiste du cycle de l'eau.
Bonjour à toutes.
Et enfin Noël, chroniqueuse de Nos Voisins Sauvages et par ailleurs cueilleuse de plantes et animatrice chez Nature et Simple.
Bonjour tout le monde, bonjour Claudie.
Voilà, l'équipe est au complet. Donc vous l'aurez compris, nous allons passer un très bon moment ensemble. Restez bien à l'écoute sur Radio G 101.5 FM. Les plantes sauvages, souvent méconnues ou sous-estimées, sont-elles une clé pour répondre aux défis de demain ? Alimentation, santé, biodiversité et résilience écologique. Comment les préserver et les utiliser de manière durable pour construire un avenir plus sain? Dans cette émission, nous parlons chaque mois des plantes sauvages qui poussent souvent sous nos pieds sans qu'on y prête attention ou à l'inverse que l'on voudrait trop souvent faire disparaître de nos paysages. Et si ces végétaux pouvaient jouer un rôle majeur pour l'avenir de l'humanité? Dans un monde où les ressources se raréfient et où les écosystèmes sont menacés, ces végétaux libres et résilients offrent des solutions insoupçonnées. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment les plantes sauvages peuvent nourrir, soigner et même inspirer nos sociétés. Alors, grâce à nos 6 invités, nous allons explorer ensemble ce sujet sous un angle très positif. Et donc, nous allons tout d'abord partir à la découverte des différentes chroniques des plantes vagabondes que vous avez le bonheur d'écouter tout au long de l'année et jusqu'au mois de juin. Et nous allons donc commencer par Noël. Et donc, le petit exercice, c'est que nos chroniqueuses vont s'interviewer par binôme. Ça va être beaucoup plus sympa. Donc, Noël va être interviewée par Marie.
Merci Claudie. Alors Noël, on a discuté ensemble juste avant cette émission et tu m'as parlé à la fois de ton métier et de ton entreprise Nature et Simple, mais aussi de ta chronique qui s'appelle donc Nos Voisins Sauvages. Est-ce que tu pourrais m'expliquer comment cette passion t'est venue et quel a été le point de départ de ton métier et de ta chronique ?
Alors c'est une longue histoire. Moi j'ai commencé à être dans le vivant, à m'intéresser à tout ce qui m'entourait très tôt. Ça a commencé par l'observation des oiseaux. Quand j'avais une quinzaine d'années ou peut-être même avant, Je me cachais dans les haies et j'avais mes jumelles et un guide d'identification et j'observais les petits oiseaux qui s'approchaient tout près de moi puisque j'étais finalement en position d'affût et pendant plusieurs heures. Donc j'avais cette chance de les voir tout près. Et voilà, des vacances à la ferme aussi, enfin vraiment un lien très très proche de la nature assez tôt. Et donc j'ai toujours travaillé dans ce domaine du paysage, de l'environnement. Depuis une quinzaine d'années, j'ai mon activité donc nature et simple, qui est de la cueillette de plantes et de la transformation, ainsi que de l'animation nature. Et donc nos voisins sauvages, alors ça n'a pas forcément trait aux plantes, hein, puisque là dans nos voisins sauvages, pour moi je parle des animaux. Des animaux qui vivent tout près de nous, qui vivent dans les mêmes habitats en fait, à qui je voulais rendre hommage et rendre leur lettre de noblesse, parce que souvent ils sont mal perçus.
D'où ce nom de nos voisins sauvages pour qualifier ta chronique.
Voilà, c'est ça. Donc sauvages puisque ce sont des animaux qui ne sont pas, sont pas les animaux domestiques ou élevés, ce sont bien les animaux qui vivent dans les milieux sauvages autour de nous. Et nos voisins, parce que bah, ils vivent aux mêmes endroits que nous, dans les mêmes habitats, dans le même environnement, et voilà, on a chacun notre place, eux comme nous, dans ce vivant.
Ouais, c'est passionnant. Et jusqu'à maintenant, tu as déjà réalisé 4 chroniques, il y en a une 5e à venir. Je ne vais pas spoiler les auditeurs, donc je ne dirai pas quel est le thème. Mais parmi les 4 chroniques que tu as déjà réalisées, est-ce qu'il y en a une qui a été plus marquante que les autres, une que tu as peut-être préféré écrire ou pour laquelle tu as mis plus de cœur à l'ouvrage que dans les autres?
Alors, il y a eu 4 chroniques pour le moment. Et peut-être la première où je parle justement de cette envie de transmettre sur, ben voilà, sur ces animaux qui sont tout près de nous et qui méritent leur place. Et où je parle aussi de la notion de séparation qu'on a tendance à faire, tout le monde, hein, entre la nature et l'humain. Et rien que ce mot de nature parle d'une notion de séparation. En fait, il n'y a pas la nature et nous, nous faisons partie comme les animaux, comme les végétaux, comme les minéraux, d'un tout. Et voilà, chacun sa place. Donc là, j'en parle beaucoup plus sur la première émission pour donner un peu le contexte de ce pourquoi j'anime cette chronique. Et donc ensuite, bah, y a eu plusieurs animaux.
Ouais, alors tu as commencé par le merle, ensuite tu as parlé du renard, de la martre, de la fouine. Moi, j'ai tendance à dire c'est les mal-aimés, on a peut-être un regard négatif. Est-ce que tu pourrais amener une petite conclusion positive, hein, sur ces mal-aimés?
Alors en effet, ce sont pour ces raisons-là, en effet, que j'ai parlé de ces animaux, surtout du renard, de la fouine et de la martre. Parce que c'est vrai que dans nos campagnes, il faut dire, ce sont des animaux qui sont souvent, en effet, pas très appréciés. Alors ce que je fais dans ces chroniques, c'est que déjà je parle de ces animaux pour les reconnaître, pour les connaître. Quand on connaît mieux quelque chose, on a souvent envie davantage de le respecter. Et je donne aussi des petits outils, des petites idées pour faire avec, en fait. Pour adapter son poulailler, pour adapter son grenier, parce que c'est vrai que ce sont des animaux qui s'approchent beaucoup des habitations et qui peuvent en effet poser souci dans l'élevage de poules par exemple. Et donc dans ces chroniques, je donne aussi des petites techniques pour...
plein de solutions finalement, on n'est pas pris au dépourvu quand on écoute ta chronique. En préparant, hein, juste avant cette émission, on a discuté aussi des projets qu'on pouvait avoir et tu m'as parlé d'ateliers de pistage. Alors moi, j'ai aucune idée de ce que c'est. Est-ce que tu peux m'en dire plus ?
Oui, alors c'est vrai que jusqu'à maintenant, j'anime surtout des choses par rapport aux plantes sauvages et j'ai envie de dire pourquoi pas revenir à mes premiers amours. Et j'ai la chance de découvrir le pistage animalier depuis quelques mois, un peu plus même. Et donc de me former tranquillement et de vous proposer à l'automne prochain mon premier atelier de pistage animalier. Alors en quoi ça consiste? C'est partir à la découverte d'un lieu et à la découverte de ses habitants. Donc par la découverte de toutes les traces que les animaux peuvent laisser. Ça peut être des empreintes, des plumes, des poils, des pistes, hein, ça on les coulait. En lisant le paysage, on peut voir qui est passé par là. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi il est passé par là, cet animal? Donc c'est tout ça, c'est un petit peu un jeu de détective privé pour découvrir les animaux qui nous entourent.
Et tout ça dans le Maine-et-Loire?
Eh oui, ce sera dans le vallon de Mise en Grain. pour la première.
On n'a pas besoin de partir en voyage à l'autre bout du monde pour voyager et jouer les détectives et découvrir des choses.
De partir en voyage tout près de chez nous.
Merci Noël pour m'avoir permis de mieux comprendre ta chronique et ton métier.
Merci Marie.
Alors, merci pour cette super interview. Pour une bonne interview, il faut un bon intervieweur et un bon interviewé. Donc, c'était très bien. Je ne veux pas mettre la pression aux autres. nous allons écouter la seconde interview. Et donc, pour le coup, c'est Marie qui va être... Donc, Marie Fortin, notre hydrobiologiste, spécialiste du cycle de l'eau, qui va être interviewée... justement par Noël.
Petite interview croisée.
Voilà, c'est ça. When you feel ashamed, go to the river.
When you're feeling sad, go to the river. Alors Marie, tu es hydrobiologiste. Peux-tu déjà définir en fait ce terme ? Alors, c'est amusant parce que toi, tout à l'heure, tu parlais du jeu de détective et le biologiste, l'hydrobiologiste en tout cas, c'est un peu le détective de la rivière. C'est celui qui, en déterminant des traces du vivant, va être capable d'attribuer une note de qualité à la rivière en se basant finalement sur ses habitants. Qui vit dans cette rivière et est-ce que c'est représentatif d'une rivière en bonne santé ou pas en bonne santé? Donc ça, c'était mon premier métier. Et aujourd'hui, je le cumule, ce métier, avec un métier d'enseignant en sciences de la vie et de la terre. Et j'ai gardé un pas sur le cycle de l'eau, puisque je fais des conférences et des formations à destination des élus, à destination des agriculteurs, sur le cycle de l'eau et le qui fait quoi de l'eau.
Et donc, tu me partageais que la transmission, aujourd'hui, était un objectif fort pour toi. Et donc, c'est dans ce cadre-là que tu animes cette chronique « L'aquapulaire ». Le vocabulaire des mots de la rivière, c'est
oui,
ça?
Oui, c'est ça, l'aquabulaire, les mots de la rivière.
En quoi consiste cette chronique, l'aquabulaire?
Alors, c'est parti du fait que je me rendais compte régulièrement que les mots que j'employais laissaient les gens un petit peu pantois. Quand on parle de nappe phréatique, quand on parle de bio-indicateur ou de ripicile, on dit « mais c'est quoi ça ?» Et ma fille faisait partie de ces personnes qui me disaient « mais je sais pas ce que ça veut dire ». Et j'avais trouvé ça assez intéressant de se dire que c'est des mots importants qui font partie de notre environnement, qui font partie du fonctionnement des écosystèmes et des écosystèmes aquatiques. Et j'ai eu envie finalement de faire une chronique qui permette de décrypter ces mots qui sont beaucoup plus simples qu'ils n'y paraissent, avec ma petite touche personnelle, l'idée que ce soit quelque chose d'accessible au grand public. Même si dans la chronique on entend la voix de ma fille au début de l'émission, c'est pas à destination des enfants, c'est vraiment à destination de tout le monde et mieux comprendre le monde qui nous entoure.
Très bien. Et donc le lien entre ta vie professionnelle, personnelle et cette chronique, donc c'est ton métier?
C'est mon métier. Alors pour revenir un peu au point de départ, j'étais biologiste de terrain et j'aimais bien partager avec mon entourage notamment ce que je faisais sur le terrain, les rivières que je visitais. Et en 2012, maintenant c'est un peu moins à la mode, mais en 2012 j'ai créé un blog qui s'appelait l'Hydrobioloblog. Je m'amusais déjà avec les jeux de mots en lien avec la rivière. Et ben c'est rigolo que tu aies parlé de ça tout à l'heure, du fait qu'on se soucie de ce que l'on connaît bien finalement, parce que c'était exactement le sous-titre de mon blog à l'époque, on ne se soucie que de ce que l'on connaît. Et je m'étais dit que si les gens étaient plus à même de comprendre les rivières, ils auraient plus à cœur de les protéger et de s'y intéresser, de s'intéresser à ce qui vit dedans. Et globalement, cette idée de transmettre a fait que j'ai changé de métier et que je suis devenue enseignante à côté. C'est le point de départ et la charnière finalement de toute ma vie professionnelle aujourd'hui.
Ouais. Donc la transmission, la sagesse qui arrive avec toute l'expérience que tu as pu avoir. Et quel serait ton mot préféré dans cet aquabulaire ?
Le mot préféré dans l'aquabulaire, je crois que c'est le terme justement de bio-indicateur et de comprendre que la présence du vivant nous donne des informations sur le fonctionnement d'une rivière. Savoir que si on a certaines espèces, ça veut dire que l'eau est fraîche et bien oxygénée, ou au contraire, si on en a d'autres, eh bien, c'est qu'il y a une problématique de pollution et qu'il va falloir réfléchir autrement à l'aménagement du cours d'eau. Et voilà, le fait que le vivant finalement nous informe avec plus de précision parfois que n'importe quelle étude beaucoup plus mesurée, physique ou chimique. Je trouve ça absolument fascinant.
L'enseignement de la nature, si on l'observe bien.
Exactement. Ouais. Je crois que c'est notre point commun à toutes les deux, en tout cas, de se baser sur ce que l'on observe et on a tant à apprendre juste en regardant.
Merci beaucoup.
Merci, Noël.
Merci pour cette interview. Alors, nous avons une question de Arcandiar.
Rebonjour, c'est passionnant. Le sujet de l'eau nous réunit tous parce que les végétaux, comme tout organisme sur Terre, est essentiellement constitué de liquide. Et c'est vrai que là, on a passé une période où on enchaîne les inondations, les sécheresses et tout ce qui va avec. Et aussi, on a eu la surprise de découvrir dans nos cours d'eau des espèces de nuages turquoises qui flottent en surface, qui sont, c'est vrai, très très beaux à observer. Comment on peut réparer nos erreurs? Est-ce que c'est facile de rendre une rivière qui a été polluée de nouveau claire et limpide, ou est-ce que c'est mal barré?
Alors, faisons une réponse positive en deux temps. Effectivement, on a des sources de pollution qui ne sont pas du tout anodines à l'heure actuelle et qui ont été encore plus mises en évidence avec les grandes crues, hein, parce que les grandes crues de ces dernières semaines ont lessivé pas mal les sols, dont les hydrocarbures présents sur les sols, qui, comme toutes les sources de polluants, finissent dans la rivière. Le petit avantage, c'est que la rivière, malgré tout, c'est une eau qui s'écoule et qui a la capacité à s'auto-épurer. Et ça, c'est même vous qui allez en parler certainement mieux que moi aujourd'hui, parce que c'est la présence des plantes qui permet majoritairement l'auto-épuration. Et puis, la capacité à une rivière de nettoyer elle-même sa pollution, c'est surtout grâce aux plantes. C'est pas mal barré, c'est jamais mal barré, heureusement. Il y a des solutions. Il y a déjà le fait de limiter tout ce qui peut venir jusqu'à la rivière, donc vraiment être dans la prévention. Et une fois qu'on a une rivière qui malheureusement est polluée, lui donner la possibilité de se dépolluer elle-même en lui rendant toutes ses capacités biologiques. Donc non, moi je suis pleine d'espoir sur ces sujets-là. Et puis oui, des fois on voit des pollutions, mais tu sais, parfois les pollutions les plus visibles ne sont pas les plus problématiques. Donc, alors bon, le côté irisé, c'est pas joli joli, mais on s'intéressera peut-être plus aux PFAS, hein, toutes ces molécules qui ont des durées de vie absolument extraordinaires. Là, ça va être peut-être plus compliqué.
Donc, Marie Chevrol pose une question à Marie.
Oui, bonjour à toutes. J'aurais voulu savoir si tu avais une vision particulière sur l'eau que l'on boit également.
Alors moi, mon métier vraiment de base, c'est vraiment biologiste de rivière. Donc je m'intéresse à l'eau brute, plus particulièrement l'eau que l'on boit, c'est une eau traitée qui subit énormément de transformations et de traitements pour être potable. Ça reste malgré tout une eau d'excellente qualité en France, extrêmement contrôlée en France. Et j'ai toujours tendance à rappeler cet état de fait qu'on boit une eau qui est parfaitement potable. Et je le dis parce que parfois on a tendance à vouloir se tourner vers l'eau en bouteille et la pollution plastique et ce qu'on retrouve dans l'eau plastique, enfin dans les eaux en bouteille, c'est vraiment pas vraiment satisfaisant. Alors la vision que je pourrais avoir sur l'eau que l'on boit, c'est qu'on ne protège pas assez nos eaux brutes et que si on protégeait un peu plus nos rivières et nos eaux brutes, on aurait des coûts de traitement et des traitements derrière qui seraient moins nombreux. Donc ce serait un système un peu gagnant-gagnant. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On a des eaux qui subissent énormément de traitements pour notamment en supprimer les herbicides. C'est majoritairement les molécules que l'on retrouve dans l'eau du robinet, en tout cas dans le Maine-et-Loire. Et ça, c'est une question qui... c'est plutôt un sujet qui pose question, on va dire.
Comme le temps nous est compté, nous allons avoir le bonheur d'écouter Arcandia, qui sera cette fois-ci interviewée par Laura.
La nature, d'elle-même, quand nous la laissons faire, se tire doucement du désordre où elle est tombée.
Bonjour. Alors, Arcandia, ta chronique s'appelle « Jardin avec les plantes sauvages ». Peux-tu nous présenter cette chronique ?
Oui, bien sûr, avec joie. Alors, cette chronique, c'est un petit peu, comme beaucoup d'entre nous, c'est rendre hommage à toutes ces êtres vivants, et là on parle des plantes essentiellement, qui sont plutôt acceptées quand il s'agit d'un champ, plutôt loin des routes, plutôt loin des trottoirs. Mais qu'est-ce qui se passe si on accepte toutes ces sauvageonnes dans notre jardin ? Est-ce que notre jardin va ressembler à une friche? Voilà, j'essaye de répondre à ces questions et donner des clés sur comment les apprivoiser, les faire entrer dans notre espace, dans cet enclos dont on est les gardiens qui s'appelle le jardin, cette espèce d'intermédiaire entre la nature sauvage dont a parlé Noël, dont nous sommes injustement séparés, et cet espace qu'on attend du jardin, c'est-à-dire un espace qui est confortable, qui répond à nos besoins, on va pouvoir se nourrir, on va pouvoir recevoir nos amis ou nos enfants vont pouvoir jouer. Donc voilà, je les accompagne, je les sublime, je les sculpte de façon à montrer au public qui visite mes jardins et à ceux à qui je m'adresse dans ces chroniques que ces plantes sauvages sont, participent volontiers au beau et au bon qu'on attend d'un jardin.
Donc tu sculptes ton jardin, tu cultives également, c'est ça? Tu travailles un peu avec ces plantes sauvages, tu essayes de sublimer ce jardin et tu reçois des personnes chez toi, du coup, c'est ça?
Exactement. En fait, c'est vraiment très cyclique. Donc, je vis avec la nature, le jardin vit avec la nature, donc j'essaye de suivre son rythme. Donc, je vous ai déjà parlé dans les chroniques de la mort au jardin. Hein. J'ai commencé fort en parlant d'un sujet très, très, très tabou, aussi bien esthétiquement que sociétalement parlant. L'idée, c'est vraiment d'accueillir cette fougue que tout jardinier a connue au printemps, qui est cette levée gigantesque et cette montée végétale qui va envahir notre jardin comme une vague verte. Et là-dedans, en fait, je vais sélectionner d'abord toutes les plantes que je vais vouloir garder. Et c'est vraiment propre à moi. Ce que j'invite les gens à faire, c'est pas à reproduire ce qu'ils ont vu chez moi, chez eux, mais à s'approprier en fait tout ce monde sauvage qui va se manifester et à voir ce qui est acceptable pour eux ou non selon leurs propres critères. Donc ça va être des critères esthétiques, ça va être des critères de confort, de temps aussi, de temps à accorder à son jardin. C'est pas un type de jardinage qui nécessite moins d'intervention qu'un jardin classique, ça nécessite une vraie présence de jardinier. Donc voilà, et je fais effectivement visiter ces jardins pour un petit peu faire montrer que c'est pas si dramatique que ça, qu'en fait si on laisse quelques plantes qui ont mauvaise réputation, elles vont pas envahir totalement notre espace et que c'est tout à fait gérable si on sait les comprendre, si on sait aller avec elles et répondre à leur propre cycle.
Et qu'est-ce qui t'a amené à créer ces jardins, sculpter ces jardins avec le monde sauvage, à qui s'adresse ton art, c'est un art un peu ce que tu fais, c'est ça, c'est de l'artistique avec le monde sauvage.
Exactement. À la base, c'était un jardin comestible où je voulais que des plantes rares. Donc, j'ai passé mes premières années à dédier tout mon temps au désherbage pour n'avoir que ma petite sélection végétale. Et en même temps, comme l'a très justement dit Noël, c'est que j'ai commencé à découvrir tout ce monde qui circulait, les animaux, les plantes sauvages qui étaient dans mes jardins. Et plus ça allait, plus j'apprenais à les connaître. Du coup, à supprimer quelque chose qu'on connaît et qu'on commence à aimer, ça devient plus compliqué. Je me suis dit, mais il y a forcément un moyen que je puisse créer un jardin avec elle et qu'on arrive à travailler ensemble. Donc c'est parti de là. Parti de fatiguer, de lutter contre des présences que finalement j'adore à l'extérieur. Pourquoi je les adorerais pas chez moi? Donc c'est parti comme ça. Et après, donc forcément, la sélection végétale, comestible s'est élargie avec une sélection qui vient ornementale. Donc il y a plus pour but d'apporter un peu de peps à certaines périodes de l'année qui sont un peu plus disgracieuses dans le monde sauvage, par exemple l'été où tout va sécher, etc. Donc avoir des feuillages persistants, avoir des floraisons estivales qui viennent égayer un petit peu tous ces temps disgracieux. Mmh.
C'est un peu un travail paysager, artistique, c'est tout un univers, c'est...
C'est ça, c'est s'approprier ce que la nature nous donne et ce qu'on a envie d'en faire. Et là-dedans, j'ai effectivement des plantes qui se mangent, et j'aime le beau, et j'aime le bon. Et donc, tout ici, autour de la table, on a une façon différente.
Oui, une approche différente. Oui. Ouais. Merci, Arcandia.
Tu avais encore une question, Laura? Parce qu'on a une question aussi de Noël, donc oui. Donc une réponse, une question courte avec une réponse courte.
Alors Arcandia, est-ce qu'on peut visiter ces jardins?
Oui, bien sûr, on peut visiter ces jardins. J'ai une ouverture annuelle au moment des rendez-vous au jardin, qui est un événement national, que je vous invite à aller sur le site rendez-vous au jardin, et vous aurez tout plein de jardins qui vont être exceptionnellement ouverts à ce moment-là. Le week-end d'après, il y a aussi les rendez-vous dans mon jardin naturel, porté par un autre organisme. Mais donc, je serai ouvert le 6 et 7 juin, les après-midi, et le dimanche matin, je donnerai une petite conférence sur la forêt. Voilà.
Merci Arcandia.
Merci.
Voilà, de beaux moments à organiser. J'avais pas forcément prévu de la faire maintenant, mais je vous propose de faire une petite pause musicale. Donc j'ai choisi une chanson qui s'appelle, le titre s'appelle Femme nue, et il est chanté par une artiste dont j'ai trouvé très peu d'infos, qui s'appelle Poème Capitaine, mais sachant que cette chanson fait partie de la BO d'un film, d'une série que j'ai vue récemment, qui s'appelle Les Saisons, et donc voilà, je voulais partager cette chanson avec vous.
Une femme nue, avec plein de vertus, notamment donner la vie, c'est de cela qu'elle est remplie. Elle nous a d'abord créés, puis on l'a aimée, pour mieux la dominer et lui puiser toute sa beauté. Maintenant toute vêtue de cette robe qui la pollue, elle se sent perdue. Chez nous, chez elle, elle ne sait plus, mais on marche à l'envers. Elle est en colère, sans ses cheveux verts, on va perdre notre mère. Mais on marche à l'envers, elle est en colère, sans ses cheveux verts, on va perdre notre mère. Pour cette femme qui broie du noir, c'est bien elle dans le miroir. Pour s'oublier, elle fume des pétards. Elle a des problèmes pulmonaires, c'est jamais fini l'enfer. Elle rêve d'un baiser polaire, digne d'une pièce de Molière. Sa robe l'oppresse, la déesse fond de tristesse, même pas un geste d'Héraclès. Elle est bien seule dans sa détresse. Mais on marche à l'envers, elle est en colère, sans ses cheveux verts, on va perdre notre mère. Mais on marche à l'envers, elle est en colère, sans ses cheveux verts, on va perdre notre mère. La machine s'affaiblit, son cœur revit. Mais joignons-la à la fête, c'est quand même elle qui nous a faites. Elle mérite une robe à paillettes, cette jolie planète. Cette jolie planète, cette jolie planète, cette jolie planète, cette jolie planète. Cheveux verts, on va perdre notre mère, mais on marche à l'envers. Elle est en colère, sans ses cheveux verts, on va perdre.
cet intermède musical. Nous poursuivons dans l'émission Les Plantes Vagabondes diffusée sur 101.5 FM sur Radio G tous les vendredis pairs. Nous sommes en cours pour faire le tour des chroniques qui s'égrènent toute l'année dans l'émission Les Plantes Vagabondes. Et nous allons maintenant écouter l'interview de Laura qui sera interviewée par Arcandia.
Alors Laura, dis-nous tout sur ta chronique, Le Monde Paysan, qu'est-ce qui t'anime et comment tu as rejoint cette formidable équipe de femmes, il faut quand même se l'avouer, nous sommes six femmes autour de cette table.
Eh bien, j'ai commencé les chroniques il y a, je pense, 3 ans. Mes chroniques tournaient pas mal autour du monde paysan, donc on a finalement trouvé ce nom de chronique qui allait bien avec les sujets que j'abordais. Donc je suis dans le monde paysan depuis quelques années, je suis une citadine à la base, pas du tout. J'ai changé d'orientation et dans ces chroniques j'aime parler des cultures, de la cueillette, des choses qu'on peut faire avec le végétal, que ce soit semer, cueillir, transformer. Je parle également des cultures, comment pailler, comment amender. Des petites techniques qui s'adressent à tout le monde pour être un petit peu plus autonome sur certaines choses. Je donne des petites astuces, des petites recettes. Pourquoi le monde paysan ? Parce que déjà, c'est ce que je fais aujourd'hui. Je suis paysanne. Et j'avais envie de partager des choses que toutes les personnes autour de nous peuvent faire, en fait, tout très simplement. Ramasser, cueillir, sécher, faire ses tisanes, ses alcoolatures, ses confitures avec ses propres cultures, mais aussi avec les végétaux qui nous entourent, la cueillette sauvage, voilà. Il y a tellement de choses à faire, donc c'est vraiment une chronique, j'aurais pu l'appeler la chronique faire.
Et donc j'ai envie de te poser une question qu'on m'a très souvent posée dans les jardins, c'est comment es-tu passée de citadine à paysanne ?
Citadine, oui. Je passais tous mes week-ends chez ma grand-mère quand même, donc à la campagne. Je suis lilloise, hein, donc c'est vraiment une grosse ville. Et je me suis dirigée donc vers le monde de la cuisine très jeune, à 16 ans. Et à côté de ça, j'ai été saisonnière. J'ai cueilli les fruits dans divers pays, Australie, Canada, États-Unis. J'ai pas mal bougé à travers aujourd'hui c'est comme si c'était un peu une continuité. Je fais de la cuisine avec les choses que je récolte, donc j'avais deux activités que j'ai réunies en une et je me suis sédentarisée, on va dire, il y a quelques années. Et j'ai des parents qui m'ont transmis des choses. On allait mon père faisait des beignets d'ortie, on allait récolter les pissenlits, on faisait beaucoup de cueillettes sauvages. On allait avec les parents se promener, on allait dans les jardins, on glanait beaucoup. On allait glaner, alors oui, on était de la ville, mais on se promenait et on glanait des choses avec... Donc c'est vraiment une transmission familiale. Mes parents étaient un peu vagabonds, voyageurs, on va dire. Et voilà, donc et ma mère était dans le monde aussi des plantes, des fleurs, donc c'est une transmission, voilà, ce qui m'a amenée. J'ai voulu construire mon premier alambic, j'avais 18 ans, je récupérais des cocottes, mes sœurs ont ramassé la camomille, elles se rinçaient les cheveux à la camomille, on récupérait l'eau de pluie pour se rincer les cheveux, enfin c'était tout, il y avait tout un univers un peu décalé, quoi. Voilà, et donc j'ai réussi à travailler de ma passion en arrivant ici en 2019 suite à une formation, et je suis restée, et depuis je suis ici, et voilà, c'est un peu ça l'histoire.
Et pour ceux qui se questionneraient sur une éventuelle transition vers les milieux, les métiers paysans, quelle formation tu as suivie ?
J'ai suivi une formation Offren, donc j'étais pas du tout du milieu. J'ai suivi, ça s'appelle un certificat de spécialisation. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai vraiment envie de me tourner vers la formation, mais la formation école, pour transmettre ce savoir, et notamment dans tout ce qui est transformation du végétal. Je trouve que les possibilités, elles sont infinies, et moi, je suis hyper impressionnée par des personnes type traiteurs, paysans, des personnes qui cultivent et qui transforment. C'est vraiment, je trouve ça incroyable, toutes les choses qu'on peut faire avec, du sirop à la confiture, enfin vraiment c'est quelque chose vers lequel j'ai vraiment très envie de me tourner. Donc je conseille, du coup le plus simple c'est de faire donc un BPREA, je pense, qui est un bac pro agricole, très bonne école, notamment à Angers, le lycée Le Fresne et bien d'autres. D'ailleurs à Segré, il y a le seul BPREA en biodynamie de France apparemment, je viens d'apprendre ça. Donc on est bien ici. Du coup, le plus de l'Anjou, c'est vraiment qu'on est sur des terres qui sont ancestrales ou qui sont cultivées. Ce sont des terres qui sont riches. Et donc, il y a un savoir qui est énorme au niveau du monde paysan. C'est assez incroyable. Et du coup, au niveau de la transmission, c'est assez fou ce qu'on peut trouver ici, je trouve. Et voilà, ce qui en fait une région très intéressante, notamment pour ça.
Merci. D'autres questions, Arcandia ?
J'en aurais mille, mais il me semble que cette émission est limitée dans le temps, donc on va s'arrêter là.
Une autre question de Marie, alors.
Oui,
Marie Chevrol.
Du coup, tu nous dis que tu vends tes produits. Est-ce que tu peux nous donner quelques petits endroits où on peut les retrouver dans la région ?
Oui, on peut les retrouver donc à Tendance Bio à Tiercé, à Loire Créateur à Saint-James-sur-Loire, à Loire Créateur au bord de l'eau à Montreuil-Junier, au court-circuit à Juvardeil, dans mon atelier qui se trouve sur Chef, une autre boutique qui se trouve donc au Douai-la-Fontaine,
et au Planty,
et au Bol d'Herbe à Domré. Pour l'instant, voilà, beaucoup de petits magasins à la ferme, super. Sur les marchés, mais pas de marché régulier pour l'instant.
Super, merci voilà. À toi.
Merci.
Belle suite. Mmh.
Merci. En tout cas, si vous venez au Planty, vous pouvez en trouver aussi. Et nous allons écouter l'interview de Marie qui anime la chronique culinaire de cette émission. Et donc Marie sera interviewée par Karine.
Anime l'émission La Chronique Enherbez-vous dans l'émission Les Plantes Vagabondes. Tu t'appelles aussi Marie Bambel. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur...
Oui, bien sûr. Marie Bambel de Saveur, du coup, c'est le nom de mon auto-entreprise que j'ai créée il y a quelques années. Et dans la chronique des Plantes Vagabondes, je propose la chronique Enherbez-vous. Je propose des recettes en lien avec les plantes et les plantes sauvages. Et j'ai beaucoup de passion à découvrir la plante déjà dans mon jardin et dans le jardin des gens, dans la nature qui nous entoure. Et la faire s'émerveiller dans nos casseroles et dans nos plats afin d'éveiller nos sens pour les petits et les grands. J'ai d'ailleurs participé à des ateliers, proposé des ateliers aux plantiers il y a 2 ans. Voilà. Je te remercie.
Tu nous disais avoir un jardin. Est-ce que tu es aussi comme Arcandia où tu essayes d'inclure au possible les plantes sauvages et les valoriser dans ta cuisine ?
Alors, dans mon jardin, j'aime beaucoup déjà mettre mes bottes et profiter du jardin, effectivement, en prenant le temps de regarder un peu ce qui s'y passe, ce qui évolue en fonction des saisons. Et je laisse ponctuellement des zones sauvages. Je découvre des nouvelles choses. Des fois, je tente, je cueille et je goûte. En me disant, bon, je pense que c'est quand même une bonne plante. la ciboulette sauvage. Personnellement, j'associe des plantes sauvages dans ma cuisine Après, pour des ateliers professionnels, j'essaye quand même de me renseigner au maximum avant de faire quoi que ce soit niveau alimentaire. Je pense que c'est très important. Voilà.
Alors moi, personnellement, j'adore cuisiner les plantes médicinales, aromatiques et de temps en temps des plantes sauvages parce qu'elles m'inspirent, parce qu'elles sont là sur mon chemin en fonction de la saison. Mais quand je parle de mes recettes ou que je les partage, j'essaye de donner envie aux gens. Ça fait pas toujours mouche. Alors, quand j'aborde le sujet de l'ortie, des choses comme ça, des fois, le nom de la plante freine les personnes à goûter. Donc, est-ce que toi, comment tu fais pour donner envie aux gens de passer le pas et d'être plus curieux ?
Alors, au niveau des plantes sauvages, effectivement, quand on propose des choses à base d'ortie, comme tu dis, ou pissenlit ou autre, il y a beaucoup de gens qui font des « qu'est-ce que c'est que ça ?» ou « non, tu vas pas me faire manger ces plantes ?» ou des gens qui disent aussi « je suis pas une vache ». Effectivement, c'est pas toujours évident pour la majorité des personnes. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est des pestos où je rajoute de l'huile d'olive, de l'ail, du sel et du poivre. Et puis, j'aime beaucoup les rajouter aussi dans des salades de crudités, où j'aime aussi faire germer des graines. Là, je rajoute des plantes sauvages dans une salade de carottes choux, et également des fleurs aussi que j'aime aussi faire sécher quand il y en a.
Tu disais tout à l'heure également que tu trouvais l'inspiration en allant dans ton jardin, en goûtant ce qui était goûtable dans la mesure du possible, une fois que tu as bien identifié. Est-ce qu'il y a une recette que tu as envie de nous partager avec une plante qu'il est assez facile de reconnaître ?
Petite colle du jour. Alors, qu'est-ce qui pourrait me venir tout d'un coup ? Là, ce qu'il y a en ce moment dans mon jardin, il y a de la menthe qui arrive. Il y a aussi de la ciboulette. Je propose de faire un petit mix avec de la menthe, de la ciboulette. Si vous avez des graines de tournesol dans votre placard, vous pouvez les griller sur une poêle. Une fois qu'elles sont refroidies, vous pouvez les mixer avec du coup les feuilles de menthe et de ciboulette. Et vous pouvez rajouter un petit peu de sel, de poivre. Éventuellement, si vous avez aussi de la purée d'amande ou un corps un peu gras ou de l'huile tout simplement, vous pourrez faire une petite tartinade très sympathique pour un apéro partagé.
Ça a l'air très très sympa cette petite recette, ça donne envie d'écouter ta chronique. Merci. En tout cas, moi j'y serai pour me donner des petites idées parce que des fois on manque d'idées déjà sur les légumes qu'il peut y avoir.
Et donc Karine va être interviewée par Marie Chevreul de Ribambelle.
Alors Karine, tu nous proposes la chronique « Le bonheur est dans les simples ». Peux-tu nous en dire plus ?
Alors oui Marie, cette chronique, je vous décris un petit peu les plantes sauvages du moment par le biais de un peu leur composition chimique, qui est tout à fait naturelle, pour avoir un peu leurs propriétés. Je fais de personne des apprentis médecins ou sorciers, mais vraiment j'essaye de faire comprendre au plus grand nombre que la nature, au grand air, est aussi une formidable pharmacie familiale. C'est juste certaines connaissances qui nous manquent, qui ne nous a pas été transmises par les grands-mères, les grands-pères, etc. Donc j'essaye de donner l'envie pour que les personnes puissent mettre le pied à l'étrier et se questionner sur qu'est-ce que j'ai dehors, qu'est-ce qui pourrait être utilisé pour en tisane, en alcoolature, pour les poumons, pour la gorge, pour le bien-être au quotidien. Je fais pas mal de recherches parce que je suis productrice de plantes médicinales à chef sous le nom de Bonaflora. Je ne suis pas herboriste et je me source beaucoup sur les propriétés des plantes avant dans ma littérature et je donne aussi les dernières avancées médicinales sur certaines plantes qui sont pas historiquement utilisées en herboristerie familiale par exemple, mais qui sont en ce moment étudiées pour la médecine à des dosages très médicinales. Donc je véhicule aussi l'information sur les molécules qui peuvent être utilisées en médecine et pas en herboristerie familiale. Donc je vais faire un petit peu les deux au cours de cette chronique.
Ok, et est-ce que tu as une formation particulière sur les bienfaits des plantes ou...
Au niveau de mon parcours de formation, du coup, je suis avant tout agricultrice. J'ai fait un BPREA à la Ménitré, c'est une formation très locale. J'ai aussi fait une spécialité, un certificat de spécialisation dans les plantes aromatiques et médicinales au frêne, comme Laura, sur Angers. J'ai fait également une petite formation phytothérapie sauvage qui était proposée par le chemin de la nature dont Arcandia a parlé tout à l'heure. Et tout au cours de mon parcours professionnel, j'ai été chez des paysans herboristes. C'est beaucoup un métier de transmission orale. Il existe encore des formations pour apprendre davantage sur l'herboristerie, les soins, comment transformer des plantes, soit cultivées, soit des plantes sauvages, en soins du quotidien ou en soins un petit peu plus élaborés. Il y a des écoles en France, en Bretagne, des écoles d'herboristerie, à Lyon, qui sont assez connues.
Alors moi, j'avais une question un peu particulière. Je me sens un peu dans une période, une début d'année un peu particulier avec toutes ces inondations et cette situation un peu mondiale mouvementée. J'aurais aimé avoir... si tu vas dans ta trousse à pharmacie de paysanne, un exemple pour des gens qui auraient besoin d'un remède pour le stress ou l'eczéma. Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller ?
En plantes sauvages, une qui est assez bien connue, pas par tous, mais beaucoup par les anciens, qui va agir sur le cœur pour l'apaiser, pour se détendre, ça va être l'aubépine. C'est une plante, c'est un arbuste qui va fleurir début avril et qui c'est essentiellement de la cueillette sauvage. Donc on voit dans les champs plein de spots lumineux à l'image des prunus en ce moment qui se parent de blanc. L'aubépine, c'est à peu près pareil. Donc l'aubépine, on en trouve dans les haies, mais on en trouve aussi en forêt. Ça va dépendre de la zone qu'on habite.
Et tu proposes quoi? De faire une tisane avec, la faire sécher?
Une petite tisane, tout simplement, pour s'apaiser. On prend une pincée de plante à trois doigts et on se fait sa propre petite tisane qu'on peut boire tout au long de la journée pour induire l'information au niveau du corps, au niveau du système nerveux pour les plus stressés.
Et donc au niveau de la peau? Vite fait.
Au niveau de la peau, tu veux quelques infos des plantes qui peuvent agir? On en a deux qui sont intéressantes là-dessus. La pensée sauvage, qui est assez facile à reconnaître, un peu comme la violette, elle tapisse les sols à certains endroits. Et la bardane, qui est cette fameuse plante avec des très grandes feuilles, dont le fruit qui va aller en graines, s'accroche sur les vêtements, sur les animaux quand on va en promenade. C'est des plantes, des grandes plantes majeures du foie. Du coup, ça va aider à purifier la peau puisque les toxines sont gérées par plusieurs organes, dont le foie. Donc, ces plantes agissant sur le foie vont aider aussi à détoxifier la peau.
Ok, merci beaucoup à toi pour tous ces détails.
Merci.
Merci pour cette interview. Juste une dernière question te concernant, Karine. Éventuellement tu avais un ouvrage à conseiller à nos auditeurs, justement, s'ils voulaient en apprendre un peu plus sur les plantes. Alors, il y en a énormément, mais comme on est dans le subjectif, est-ce que tu en as un préféré, en fait?
Oui, j'en ai deux que j'apprécie fortement et que aujourd'hui je serais embêtée si je devais les perdre. Je vais en citer un notamment, c'est Mességuier. C'est un ancien médecin herboriste des stars. À l'époque, il avait fait plusieurs ouvrages. Et il est intéressant parce que son papa était médecin, herboriste également. Donc il a plein dans ses ouvrages, il a plein de recettes ancestrales sur la médecine des plantes. Il propose des bains de siège, des choses qui sont de moins en moins connues. Il propose des petits remèdes qui sont plus trop mis au goût du jour, mais qui sont fort intéressantes. Il parle de choses de Kélidouane, par exemple, des choses avec lesquelles on se soigne de moins en moins. Et cet ouvrage, je l'aime beaucoup. Au-delà de tous ses apports en savoir, mais parce qu'un jour, j'étais juste dans une petite cabane à livres, comme il en existe dans plein de communes, et je me suis dit, qu'est-ce que je vais regarder, je ne sais pas ce que je vais trouver. Et en fait, c'était une période où je lisais beaucoup de contenu sur les plantes, et ce bouquin est apparu comme ça, quand j'ai ouvert la cabane à livres, et c'était pour moi. Donc je l'aime beaucoup, ce vieux livre, qui est tout écorné, mais qui est super.
Ah ben merci pour ce témoignage en même temps que l'information pour le livre. Mais en tout cas, en ce qui concerne les livres à tête personnelle, c'est toujours le livre qui vient à nous. Et j'ai l'impression que c'est aussi pareil pour les plantes. Parce qu'en tant que paysagiste, on est amené quand même à travailler à partir de ce qui existe. Et voilà, on veut croire qu'on part de zéro, de rien sur un projet. Et ça, c'est quand même un peu illusoire. Ou alors, il faut faire table rase et je trouve ça dommage. On fait la même chose avec les humains. On fait table rase aussi sans prendre en compte les usages existants. Et c'est ce qui fait que parfois, ça finit pas bien. Donc, en tout cas, je suis contente d'avoir écouté vos témoignages parce que ça montre qu'on peut faire des expériences et l'objet de cette émission, bah, c'est aussi de construire, de poursuivre un récit, un début de récit ou un début de relation avec les végétaux, mais aussi entre les humains. Et donc c'est un beau moment de partage que vous nous avez offert. Comme le temps passe au cours de cette émission, je voulais quand même finir sur un dernier temps en lien avec notre fil rouge, puisque notre fil rouge de début d'émission, c'était une question sur les plantes sauvages pouvaient-elles devenir une ressource pour l'avenir des humains. Et donc, moi, j'ai envie de dire, ben, peut-être qu'on pourrait faire un petit tour pour chacune dans vos spécialités, donner un petit message aussi d'espoir, mais pour donner envie d'expérimenter soi-même et voilà, et de ne pas se bloquer sur des idées préconçues ou des dogmes, quels qu'ils soient. Donc, je veux bien donner la parole à Noël. Alors, on jongle un peu avec les micros, puisque nous sommes en direct du Plantis avec le studio mobile prêté par Radio G, que je remercie infiniment de m'avoir dépanné sur ce coup-là.
Alors, les plantes sauvages, pour moi, elles sont très enseignantes et elles sont une source majeure de nutriments aussi. Enfin, voilà, elles représentent une force de vie sur laquelle on peut s'appuyer, je pense, pour voir la vie de manière positive à l'avenir. Elles ont une capacité d'adaptation et elles sont une source de nutriments, comme je disais, très très présente. Donc n'hésitez pas à les maintenir dans vos lieux de vie, dans vos jardins. Il n'y a pas de mauvaises herbes. Quand vous choisissez de garder certaines plantes que vous avez plantées peut-être et en éliminant quelques espèces sauvages, n'hésitez pas à les utiliser. Faites des ateliers pour apprendre et puis apprivoisez-les et franchement vous les verrez d'une autre manière. En fait, le message peut-être que je peux dire, c'est déplacer votre regard, regardez les choses autrement, voilà, pour apprendre de ces plantes qui nous entourent. Merci.
Merci Noël. On poursuit le mot de la fin avec Marie.
Alors moi, ma porte d'entrée, ce sera forcément le cycle de l'eau. Et une certitude, c'est que les plantes, elles ont un rôle majeur dans ce cycle de l'eau. Toutes les plantes qui sont présentes sur un bassin versant, c'est-à-dire autour de la rivière, permettent justement le stockage de l'eau dans les zones humides. Elles permettent aussi de faire ce fameux triptyque entre les plantes, le sol et l'eau pour pouvoir garder de l'eau sur les territoires. Et si on s'intéresse aux plantes aquatiques, alors là, elles auront des capacités absolument incroyables d'épuration de nos rivières. Elles sont des supports de vie pour l'ensemble de la faune aquatique, bien évidemment. Elles sont la base aussi de tout le cycle de vie producteur, consommateur, primaire. Et elles permettent vraiment de rendre une bonne qualité à la rivière. Je vais laisser le soin aux autres chroniqueuses de parler des plantes aquatiques, mais on peut citer les bryophytes qui sont des bio-indicateurs de la qualité des rivières.
Arcandia prend la suite.
Alors je rebondis sur le déplacer votre regard de Noël. Je pense que il est capital aujourd'hui pour notre bien-être personnel, le bien-être de notre société et le bien-être de l'être humain en tant qu'animal parmi ce monde, de déplacer notre regard, effectivement, d'avoir un regard plus large, de sortir de ces problèmes, de voir que ces petits problèmes du quotidien, peut-être, à travers une balade dans la nature, peuvent prendre une autre portée. Peut-être qu'on peut perdre nos regards dans les oiseaux, dans les animaux. Peut-être qu'on peut adopter une ou deux plantes sauvages dans notre jardin, se rendre compte que finalement elles sont gérables. Peut-être qu'après ça sera 5, 10, 20. Commencer par des petites choses, ne pas se mettre la pression, rien n'est grave. Juste avoir la curiosité et l'amour nécessaire pour aller vers ce monde végétal.
Merci Arcandia. Alors Laura.
Alors moi j'avais du coup on parle de la nutrition et la nutrition avec ces plantes sauvages et je voulais parler de mon expérience dans la friche ou dans une partie d'une friche où je me suis installée et donc qui est à côté de mon terrain de culture et en désherbant cette friche il y a des espèces de pruneliers, poiriers, pommiers sauvages et donc qui ont pu fleurir et donner des fruits après du coup avoir travaillé cette zone et j'ai trouvé ça assez incroyable en fait de retrouver d'avoir des fruits. Je me suis même demandé si c'est pas des fruits qui avaient été greffés, plantés et non c'est des variétés qui sont sauvages et là vraiment on se retrouve. Enfin j'ai trouvé vraiment dans la nutrition, dans le manger, autour de là où je me suis installée, il y a 5 pruniers, pruniers francs et 5 arbres différents avec 5 fruits différents, 5 saveurs différentes, toutes différentes les unes des autres. Et j'ai trouvé ça assez incroyable de trouver en fait ces arbres nourriciers en défrichant une zone pour y habiter. Voilà, c'était le lien que j'avais envie de faire avec les plantes sauvages et l'alimentation.
C'est vrai, hein. C'est la question des fois je me pose. Si on se retrouve dans la nature tout seul, c'est-à-dire sans aucune autre ressource, ça arrive déjà à des populations ailleurs dans le monde, quelle est notre capacité à trouver comment nous alimenter et c'est pas forcément en chassant qu'on va forcément le faire tout de suite. Il faut être à l'aise avec la chasse. et donc, effectivement, c'est une bonne expérience.
Bah, du coup, je trouve que l'exemple, je le trouvais pas mal autour du mûrier. Le mûrier, tout le monde cueille de la mûre. Enfin, tout le monde, une grande partie, on va se balader, on cueille des mûres et on fait sa confiture. Et pour moi, c'est l'une des premières plantes sauvages, vraiment, nourricières, parce qu'effectivement, il y a des petites plantes, on fait des salades, etc. Mais celle-ci, donc je trouve que la mûre est un très bon exemple.
J'aimerais rebondir sur la mûre. Je l'ai gardée dans un de mes jardins et je la sculpte sous forme de boule. Donc c'est possible, même si vous avez des petits jardins, d'avoir des mûriers, de la mûre sauvage chez vous. Il faut juste bien avoir un espace tondu autour pour être sûr de la contenir. Et de temps en temps, vous lui mettez un petit coup de bâton pour reformer une boule. Donc il n'y a même pas besoin d'y aller avec les mains, juste vous tapotez dessus, hop, et vous reformez la boule.
et tout va bien. Et vous avez des murs dans votre jardin, un hôtel à insectes absolument merveilleux, meilleur que tous ceux de toutes les jardineries du monde. Et vous serez trop content d'avoir des murs à la maison. Et vos enfants aussi.
Un grand merci à vous. J'espère que cette émission plaira beaucoup à nos auditeurs, je n'en doute pas. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission avec vos chroniques. À très bientôt, merci à vous.
Merci Claudie.
Cette émission est terminée. N'hésitez pas à écouter et réécouter sans limite tous nos podcasts de l'émission Les Plantes Vagabondes sur radio-g.fr. Toute l'équipe du Plantis vous donne rendez-vous dans 15 jours pour découvrir une nouvelle plante.